résistants du régime militaire qui a régné au Brésil entre 1964 et 1982, les mêmes terres ont été offertes aux petits et aux humbles venus de tout le Brésil, invités par le gouvernement militaire à venir s'installer en Amazonie. Des centaines de milliers de familles sont montées de tout le Brésil pour s'installer. Le problème, c'est que les mêmes terres étaient offertes par le même gouvernement militaire aux multinationales qui venaient s'installer au Brésil pour provoquer ce qu'on a appelé le miracle brésilien des années 70-80. On leur offrait des latifundias de 10 000, 20 000 km² en échange de leur implantation au Brésil. Seulement, en même temps qu'on les offrait aux multinationales, elles avaient déjà été offertes par petits morceaux aux familles pauvres. Et un jour, le procureur de la République qui nous rencontrait, nous, évêques du Pará, nous a dit, je vais être sincère, dans le Pará, il y a une terre pour 4 titres de propriété, c'est-à-dire qu'il faudrait 4 étages pour satisfaire tous les prétendants propriétaires. Et se tournant vers moi, il me dit, chez vous, dans le sud du Pará, c'est 11 propriétaires pour une terre. Et il est clair que ça se résout au revolver.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de violence dans votre diocèse ?
Alors, ça a été extrêmement violent pendant les années 70, 80, 90. Ça a été vraiment effroyable. Les choses ont commencé à s'apaiser à partir de l'an 2000. En 2015-2016, la situation est plus claire. Il y a moins de conflits de terres, mais il y en a encore.
Comment s'est apaisée la situation ? Est-ce que finalement c'est toujours à la défaveur des petits contre les multinationales ou est-ce que des petits agriculteurs ont su conserver leurs terres ?
Oui, il y a encore une petite agriculture familiale qui existe. Personne ne leur a enlevé leurs terres. Mais il y a encore la tentation pour le grand de devenir plus grand. Il y a ce problème-là et il y a la question aussi de nombreuses familles sans terre qui, selon la constitution brésilienne, ont le droit de venir encore demander des terres et qui s'installent provisoirement sur le bord de nos routes dans l'attente que des terres non exploitées leur soient offertes par l'Institut de la Réforme Agraire. Malheureusement, on peut dire peut-être que depuis 40 ans, il est excessivement rare, et je ne sais même pas si c'est arrivé, qu'il soit arrivé à la possession de cette terre sans violence. Alors que c'est un droit constitutionnel, un grand propriétaire qui n'exploite pas ses terres peut se voir désapproprié de ce qu'il n'exploite pas en faveur de ceux qui n'ont rien. Malheureusement, ça c'est la Commission pastorale de la terre qui le prouve, il n'est jamais arrivé que ceci ne passe.
Ce que j'entends aussi, c'est que finalement, votre diocèse est une terre de migrants ou de déplacés et que c'est beaucoup d'espoir déçu.
Vous voyez très juste. Je peux dire que sur mon diocèse, je n'exagère certainement pas en disant que 95% de la population est arrivée dans les 40 dernières années, 30 ans, 20 ans, 10 ans ou 3 ans. Et bien de ces espoirs ont été déçus. Il y en a qui ont été comblés. Et quand je rencontre les familles de la petite agriculture, c'est beau de rencontrer ça. J'avais vécu en favela brésilienne à Salvador de Bahia pendant 13 ans avant d'arriver en Amazonie et j'avais difficilement rencontré des hommes heureux, très difficilement. Si je rencontre dans l'agriculture, la petite agriculture familiale, des réalités très belles. Ceci dit, la petite agriculture n'est pas suffisamment appuyée en face de l'agro-business. Même les gouvernements comme ceux de Lula ou de Dilma, qui avait promis un fort appui, en réalité ne l'ont pas donné. Et qu'on voit aussi des familles qui, après 10, 15 ou 20 ans, sont obligées de laisser leurs terres parce que les conditions sont encore trop dures. On peut accepter des conditions difficiles quand on vient là où il n'y a rien, qu'il faut commencer par déboiser et puis ensuite survivre. Mais si au bout de quelques années, vous n'avez même pas de chemin praticable et que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école parce que les bus scolaires ne viennent pas jusque chez vous, il y a un moment où la famille désiste et finalement, elle prend sa place dans l'exode rural vers les grandes villes pour vivre dans des périphéries où la vente de leurs terres ne vaut strictement rien parce que la vie dans une périphérie ne se compare pas avec la vie rurale où vous produisez vous-même votre propre alimentation, même si c'est très peu de choses.
On entend, hein, ce sont des drames familiaux qui se jouent dans votre environnement. Comment vous pouvez leur apporter votre soutien ?
Alors, on n'est pas très puissant. On a la chance d'avoir un bras un peu fort qui s'appelle la Commission pastorale de la terre pour la défense des petits sans terre, pour l'appui à l'agriculture familiale et aussi pour lutter contre l'impunité qui couvrait les grands propriétaires. Alors la Commission pastorale de la terre, avec sa dimension juridique et avec sa dimension aussi de conseil agronomique, est encore une force très grande à côté de la petite agriculture familiale. Mais il y a beaucoup à faire. Et puis il y a toujours aussi cette réalité du travail esclave qui consiste à embaucher par exemple des dizaines ou centaines d'ouvriers agricoles dans un état voisin, et lorsqu'ils arrivent sur le latifundia, la grande exploitation agricole, eh bien, ils découvrent qu'il faut payer le voyage et que d'autre part leur salaire mensuel ne remboursera pas la dette qui est engendrée par leur présence sur l'exploitation. C'est-à-dire que le salaire est plus faible que la dette et que donc ils ne s'en sortiront jamais. Ça s'appelle du travail esclave. Il est évident que si le travailleur cherche à s'enfuir, ça se résout ça aussi au revolver.